Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Et mes invités qui sont autour de la table, je vais vous les présenter. Éric Diard, qui est député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la radicalisation dans les services publics. Bonsoir Éric Diard.
Bonsoir.
Vous êtes avocat aussi de profession.
Oui.
Vous n'êtes pas sur la liste des Républicains pour les européennes.
Je
voyais que les 20e sont les 10e, les 15e sont...
Non, écoutez,
je ne taquine pas là-dessus.
Non, je suis député à l'Assemblée nationale, c'est déjà très bien.
C'est déjà très bien. David Calogine qui est avec nous, secrétaire général adjoint du syndicat UFAP UNSA Justice, surveillant à la maison d'arrêt de Saint-Pierre à La Réunion. Bonsoir David Calogine.
Bonsoir Mathieu.
Merci d'être en direct avec nous. Maître Henri Leclerc va nous rejoindre, avocat lui aussi, doyen du barreau de Paris, ancien président de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Il sera avec nous dans quelques instants pour ce débat. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir Mathieu, bonsoir
nous
à
allons
tous.
Parler des détenus radicalisés jusqu'à 20h, mais on avait besoin de vous juste avant, mon cher Benjamin. Comme chaque jour à cette heure-ci, on voit comment les médias ont traité un sujet de l'actualité. Le seul sujet qui compte, le seul sujet qui donne la pêche.
Et le seul sujet qui compte aujourd'hui, on bline, celui qui fait du bien, obligé, on va revenir sur
le plafonnement des indemnités prud'homales, la ministre de la Justice, Nicole Belloubéry.
Oui, on bline, c'est vrai que c'est fun de parler des prud'hommes, mais non, pardon, on va plutôt parler de foot.
Comme le titre si bien l'équipe ce matin, Paris a un job à finir ce soir au Parc des Princes.
Oh oui, qu'il faut finir le job, PSG Manchester, ça approche, les Français sont chauds. Et hier, Mathieu, avec on bline, on vous a demandé si vous étiez confiant, petit rappel.
À la veille du match,
on est confiant,
Paris.
On est confiant.
Ouais, on confirme. Bien sûr qu'on ne peut jamais vendre la peau de l'ours, tout ça.
Ouais. dis donc, quel optimisme. Mais si, on y croit. D'ailleurs, j'ai regardé l'émission de Vikash Dorasso sur Yahoo Sport. Eux, au moins, ils vendent la peau de l'ours, tout ça.
Franchement, je ne vois pas ce qu'ils pourraient nous inventer pour ne pas passer.
Mais oui, c'est vrai qu'on va se qualifier facilement. On le rappelle après la victoire 2-0 à l'aller. Alors bon, jour de match, pour les fans de foot, ce sont des journées un peu particulières. Le temps est long. À BFM Paris, pour leur matinale, ils ont une drôle d'idée ce matin.
On vous accueille ce matin avec toute l'équipe de Bonjour Paris, en direct du Parc des Princes, pour une matinale absolument exceptionnelle. C'est la première fois qu'une matinale se délocalise dans l'enceinte du Parc des Princes.
Bah tu m'étonnes que vous êtes les premiers. À quoi ça sert? Vous êtes dans un stade vide, à 7h du matin, il fait nuit, il fait froid, 14h du coup d'envoi. Vous en faites peut-être un peu trop. En tout cas, c'est pas nous ici, Mathieu, qui en ferions trop avant le coup d'envoi, n'est-ce pas?
Enfin, H-4, oui. 3h et 56 minutes et 30 secondes.
Ouais, mais ça c'est normal, c'est pas pareil, c'est le grand décompte, c'est la base, c'est tout. Alors pour revenir au match, ce qui est vrai, c'est que les auditeurs qui ont de la mémoire se souviennent de cette matinale terrible sur Europe 1 du 9 mars 2017.
Elle est là, la remontada, la fameuse.
Eh oui, la voilà, la raison pour laquelle il faut... L'histoire, c'est important, Mathieu, toujours le contexte. La raison pour laquelle on s'empêche de trop y croire, le souvenir de cette terrible remontada. On rappelle, victoire 4-0 à l'aller face à Barcelone, défaite 6-1 au retour, l'enfer. À l'époque, je me souviens comme si c'était hier, des réactions de supporters de l'époque sur Europe 1.
Je trouve ça horrible, on n'est pas digne de Paris, quoi. On fait honte à Paris, le club parisien fait honte à tout Paris.
Oui, monsieur, déception compréhensible, même si en réécoutant tout Europe 1, j'ai réalisé que chez nous, ici, le jour du match, on avait alerté nos auditeurs sur le risque d'une remontada. Pour être précis, c'était Jérôme Commandeur qui l'avait fait à sa manière.
Ouais, mais faut se méfier des favoris, parce que regarde la mère Clinton. Elle devait rentrer à la Maison Blanche. Résultat des courses, à l'heure qu'il est, elle tricote des préservatifs en laine pour son mari. Hein. Favori, attention danger.
Voilà, les joueurs parisiens sont prévenus, on déconne pas ce soir, merci à tous.
Merci Benjamin Muller. Et vous savez quoi, il faut être sur Europe 1 ce soir à partir de 20h.
Lionel Rousseau
en direct du merveilleux studio Pierre Belmar avec le service des sports et le club Europe 1 pour vous faire vivre cette soirée de football. Tiens, peut-être un petit pronostic de la part d'Éric Diard, député des Bouches-du-Rhône.
Je ne me risque à aucun pronostic. Et encore que je pense que les Parisiens doivent être un peu inquiets avec le résultat de l'Ajax contre le Real hier soir.
Bien sûr, langue de bois, un score, Éric Diard.
Un score 2-1 pour le PSG.
Oui, donc c'est quasiment un aller Paris que vous venez de me dire.
Ah, j'ai pas dit ça.
David Calogine, tiens, on va profiter de ce tour de table. Secrétaire général adjoint, on va parler sérieusement après.
Moi, profitons de Benjamin Muller. Moi, j'assume complètement d'être supporter de Paris, donc ça sera un 3-1 pour Paris.
Voilà, et maître Henri Leclerc qui nous a rejoint. Un pronostic?
Moi, j'en sais strictement rien, je prendrai le résultat comme il vient.
C'est la première fois qu'on vous demande un pronostic de football, maître Henri Leclerc, sur une antenne.
Oh, je t'assure.
Oui, moi je suis assez fier. 19h27 sur Europe 1. Europe 1. Vous restez avec nous avant cette soirée de football à partir de 20h avec Lionel Rousseau. Je vous le disais, notre débat. Débat essentiel ce soir. Comment gérer les détenus radicalisés, mes invités. Je vous les ai présentés. Nous revenons dans quelques secondes sur Europe 1.
Vous écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1. Vos invités ce soir, l'avocat maître Henri Leclerc, doyen du barreau de Paris, ancien président de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Le député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Éric Diard, rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la radicalisation dans les services publics, et le secrétaire général adjoint de syndicat UFAP-UNSA Justice, David Cologine, surveillant à la maison d'arrêt de Saint-Pierre à La Réunion.
Je vous entendais, maître Henri Leclerc, votre micro n'était pas encore allumé. Pas doyen du barreau de Paris.
Non, je ne suis pas doyen, je ne suis pas le plus jeune, mais je ne suis pas non plus le plus vieux.
Merci à vous trois d'être avec nous ce soir pour ce débat. Question difficile, on va procéder dans l'ordre. Beaucoup de Français ont été surpris de la possibilité de faire entrer un couteau, fut-il en céramique, dans l'enceinte d'une prison. Est-ce qu'il faut revenir sur la loi des fouilles et des palpations de détenus, puis ensuite peut-être des personnes qui visitent les prisons.
Alors, en ce qui concerne
David Cologine,
au moins la population pénale. On pense, nous, personnel pénitentiaire, que c'est un acte sécuritaire et pour les personnels pénitentiaires eux-mêmes, mais aussi pour la population pénale entre eux.
Vous les souhaitez de manière systématique, ces fouilles?
Je sais pas. Moi, quand je vais à l'aéroport et qu'on me demande une fouille par palpation, je l'accepte sans problème, quoi. Ça reste dans une possibilité. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité juridique concrète de pouvoir effectuer une fouille aléatoire sur un détenu sur lequel on suspecterait d'avoir un objet interdit.
Maître Henri Leclerc,
les fouilles sur les détenus ont été réglées par la loi pénitentiaire de 2009, loi Rachida Dati. Monsieur Sarkozy étant président de la République, je tiens à le dire, parce que on me dit toujours que j'ai des positions de gauchiste. Là, Et la loi sur les unités familiales est une loi de Monsieur Perben en 2003. Donc là, on est sur un terrain qui est intéressant, parce que c'est un terrain donc quasiment d'unanimité au moment où ça s'est fait. Alors, sur les fouilles, d'abord, les fouilles des détenus ont été réglées par la loi de 2009. Elles ont été réglées avec quand même des possibilités plus larges que vous ne semblez le dire. Vous avez des possibilités, ça, sur ce point, c'est un problème technique. Moi, je pense qu'en ce qui concerne les fouilles des détenus, nous savons très bien le problème qui était posé, qui était des problèmes qu'avaient révélé des enquêtes très approfondies, dont celle du Sénat et de l'Assemblée nationale en 2000, d'ailleurs, sur le caractère humiliant, vexatoire d'un certain nombre de fouilles, en particulier des fouilles, ce qu'on appelle la fouille intégrale, vous m'avez compris.
La fouille à nu.
Aujourd'hui, c'est réglementé. Si un nouveau débat a lieu là-dessus, d'accord, mais je pense qu'il faut surtout préserver la dignité des hommes. Mais, bien entendu, la sécurité. Ça, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, parlant de ça, je voudrais dire que dans un débat comme celui d'aujourd'hui, moi, je commence à dire ma solidarité totale avec les gardiens. Les avocats, nous défendons les détenus, mais moi, j'ai pour les gardiens non seulement de la considération, mais j'estime que le pays n'a pas assez de considération pour eux. Je tiens à vous le dire, monsieur. Je tiens à vous le dire. Alors, ceci étant, il est évident qu'aujourd'hui, nous sommes totalement du côté de ceux qui ont été blessés. Alors, ceci étant, les fouilles des familles, ça s'est réglé par la loi générale, je dirais. Il n'y a pas de particularité sur les fouilles. Mais c'est le même régime que celui de l'aéroport, c'est-à-dire qu'il y a quand même le portique. Il existe. Je n'ai pas vérifié dans les fouilles de famille, je pense qu'il existe comme partout.
Bien sûr, il y a le portique. Alors, avec la particularité du couteau
il y a le portique,
céramique
c'est
qui ne
c'est
bille
que
pas.
Les objets non métalliques ne sont pas décelés par le portique. Faut-il, dans ces conditions, permettre une fouille à corps? Moi, je pense qu'il faut, dans ces conditions-là, la réglementer et l'organiser.
Éric Diard.
Moi, ce que je voulais dire, quand même, depuis 2009, il y a eu nombreux attentats. Il y a eu les attentats de 2015. Les attentats de 2016 et une radicalisation qui a littéralement explosé, je tiens à vous dire, par rapport à la mission dans nos prisons. Et le représentant des surveillants faisait une allusion à l'aéroport, mais si ce soir je me rends au Parc des Princes, je serai fouillé systématiquement. Et je ne dirai rien, je me rendrai dans un stade. Et là, nous avons des visiteurs qui ne sont pas fouillés. Et donc, vous avez les portiques ne détectent pas certains explosifs, ne détectent pas certains couteaux,
certains
justement avec des lames céramiques. Mais la problématique que nous avons, c'est de pouvoir... Il faut faire preuve, à mon avis, de discernement et pouvoir évaluer la dangerosité des individus. C'est-à-dire, quand il y a un individu qui a été condamné en 2012, qui a fait l'apologie du terrorisme en 2015. Donc, nous avons en France 500 détenus pour des faits de terrorisme et 1000 détenus qui se sont radicalisés en prison. Il est urgent d'évaluer leur degré de dangerosité, et ces personnes-là, quand une personne vient les visiter, il est tout à fait légitime qu'elles soient fouillées, et nous en avons la preuve encore avec ce qui est arrivé hier.
David Calogine, vous vouliez intervenir ?
Je voulais juste revenir sur l'humiliation subie par les personnes, les détenus, si vous voulez. Je ne connais pas, ça fait 27 ans que je pratique ce métier, je ne connais pas un surveillant qui prend du plaisir à faire une fouille à corps à nu.
Ça n'empêche que ça peut je être considéré comme
je n'ai pas dit que les surveillants y prenaient du plaisir.
C'est important.
Je crois même que pour eux, c'est extrêmement pénible. C'est pénible. Mais vous avez bien compris ce qu'était la fouille intégrale. C'est-à-dire la fouille des parties les plus intimes, ce qu'on appelle le doigt dans le cul, en gros. Hein, bon. Et ça...
Là, c'est l'image qui est quand
Écoutez, je suis obligé de donner l'image pour qu'on comprenne.
Là, le sujet est quand même les fouilles des
visiteurs. Mais je n'ai pas jamais dit que les surveillants y prenaient du plaisir. Dit que c'était perçu. Mais ce que je viens d'entendre est important. C'est-à-dire qu'il y a une étude à faire, il y a effectivement une évaluation à faire sur la fouille. Ce qu'on appelle la fouille à corps. Vous savez, la fouille qui existe, vous parlez de la fouille à l'aéroport ou de la fouille, c'est une fouille extérieure. C'est une fouille. Bon, ça, alors, soit, moi, je ne vois aucun inconvénient, ce qui est cette fouille extérieure.
Il peut y avoir palpation.
Je ne crois pas qu'elle soit interdite, contrairement à ce qu'on dit. Je ne crois pas qu'elle soit interdite, la même fouille que celle qui a lieu au.
Sur les détenus, elle est.
La fouille sur les détenus est parfaitement réglementée par la loi de 2009.
C'est pas compliqué pour les personnes qui visitent. Aujourd'hui, elle passe par un portique. Si le portique bip, on peut réclamer une fouille. Et la personne a le droit de refuser.
On ne peut pas réclamer de fouille. On peut demander à la personne si elle accepte à ce qu'on passe un détecteur de métal sur elle. Mais en cas de refus, la seule chose qu'on peut faire, c'est de lui refuser l'accès.
Et ben voilà.
Tout simplement.
Et ben voilà. Ça, je pense que nous sommes exactement dans le même cas que dans le cas de l'avion et dans le cas de toutes les fouilles à corps extérieur, c'est-à-dire les salles de spectacle, ce que vous disiez tout à l'heure sur le stade ce soir. Donc, je pense qu'il faut essayer de mettre cela à plat.
Non, mais il n'y a pas de palpation systématique
des
visiteurs.
Le système pour les détenus, d'ailleurs, il n'est pas en cause, là, le système pour les détenus. Personne ne pense que ce sont les détenus qui ont des égouteaux.
Donc, on ne pense pas.
Mais
la fouille des détenus est organisée par la loi de 2009. Il semblait qu'il y avait un accord. S'il n'y a pas un accord, eh bien, il faut faire une discussion, puis on verra bien.
19h37.
Europe 1.
On marque une petite pause, le débat continue. Comment gérer les détenus radicalisés ? Je voudrais aussi poser la question de cet établissement dont on dit qu'il était particulièrement sécurisé, qu'il était en pointe. Ça pose quelques questions, évidemment. Nous revenons dans un instant sur Europe 1.
Sur Europe 1, vous invitez Mathieu Béliard ce soir, le secrétaire général adjoint du syndicat UFAP-UNSA Justice, David Calogine, surveillant à la maison d'arrêt de Saint-Pierre, à La Réunion. L'avocat au barreau de Paris, maître Henri Leclerc, ancien président de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Le député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Éric Diard, rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la radicalisation dans les services publics.
Question pour vous trois autour de la table. Faut-il s'inquiéter particulièrement quand on nous dit que cette prison, la prison de Condé-sur-Sarthe, est une prison d'excellence en termes de sécurité, d'un niveau de sécurité en tout cas particulièrement élevé, Éric Diard ?
Non, ce n'est pas une question d'inquiétude. Cette prison, je rappelle qu'il avait été transféré justement suite à sa condamnation pour apologie du terrorisme en 2015. Il est transféré dans cette prison, mais il est fiché FSPRT et il est considéré comme un détenu de droit commun. Donc il n'est pas à l'isolement comme ceux qui sont enfermés pour des causes de terrorisme.
Il est donc. Comprendre que radicaliser n'est pas synonyme de dangereux.
Apologie du terrorisme, c'est quand même synonyme de dangereux.
Il n'a pas été condamné pour des faits de terrorisme ou pour association de malfaiteurs. Apologie du terrorisme, c'est qualifié et il n'a pas été considéré comme dangereux à ce moment-là.
Quand vous êtes fiché FSPRT, quand vous êtes dans une cour de prison et vous criez Bataclan avec plusieurs détenus, quand c'est son avocat qui le dit, c'est pas moi, vous demandez à des détenus, vous les forcez à boire 8 litres d'eau pour se purifier. Je pense qu'on doit s'inquiéter. Il était prévu d'être évalué à la radicalisation au printemps 2019. Donc, il n'était pas dans des situations de sécurisation de Condé-sur-Sarthe. Et je reviens sur le problème et je le rapproche de Checat. Nous avons vraiment une difficulté d'évaluation. Checat à Strasbourg, c'est une bourde, c'est une grave erreur. Je vous donne l'exemple. Checat, on le considère comme un détenu de droit commun alors qu'il est radicalisé et on va l'arrêter comme un détenu de droit commun. On ne sait même pas où il dort. C'est-à-dire, on va chez sa mère, il est chez son père. Et c'est pour ça qu'il fait l'attentat de Strasbourg. Quand on a voulu arrêter Redouane Faïd, qui s'était évadé, on savait où il dormait, où il couchait. Et on ne l'a pas arrêté à 6h du matin, on demandait au juge de liberté. On l'a arrêté au milieu de la nuit. Donc quand on arrête, excusez-moi, un individu présumé dangereux comme un voleur de poules, on s'expose à de gros risques.
David Calogine.
Oui, alors Condé sur Sarthe fait partie des deux établissements les plus sécuritaires de France. Le souci principal, c'est justement dans l'évaluation du potentiel dangereux. Et ce détenu, Chiolo Michael, était en détention normale et travaillait même aux ateliers, quoi. Donc, alors même qu'il a été condamné pour apologie au terrorisme. Donc c'est des situations, nous, que nous vivons tous les jours. Au-delà de la radicalisation, mais je parle surtout de la dangerosité des détenus.
Le problème, il est dans l'évaluation.
Mais bien
tout
sûr,
à fait.
Tout à fait.
Mais qui en est responsable? C'est pas la justice pour une fois.
Ah, je n'ai pas dit que c'est la justice.
Non, mais justement, non, c'est sûr, très intéressant.
C'est important de mettre en Leclerc.
Je dis le problème, effectivement, de l'évaluation. C'est, vous savez, la dangerosité, c'est très difficile à évaluer. Car vous avez des gens qui ont pu commettre des actes extrêmement graves et qui, curieusement, ne sont plus dangereux après. Et vous avez des gens qui n'ont rien fait vraiment, et qui sont en fait dangereux parce qu'ils sont déjà dangereux dans leur cœur. C'est très compliqué. Alors il y a les psychiatres, il y a tout ce qu'on voudra, c'est très difficile. Et bien entendu, qui est responsable de ça? C'est l'administration pénitentiaire. C'est donc c'est l'administration pénitentiaire qui évalue cela. Et monsieur le député critique l'administration pénitentiaire, je le comprends, mais l'administration pénitentiaire, c'est un ensemble. C'est une administration, c'est les surveillants, des surveillants au cadre, c'est l'administration pénitentiaire qui dépend du ministère de la Justice. Voilà.
C'est une bonne chose.
C'est
que
pas
ce
les hommes politiques qui décident ça, je le dis tout de suite. Hein. Comment?
C'est une bonne chose que ce soit l'administration pénitentiaire.
Mais qui voulez-vous que ça soit?
Voilà.
Qui Attendez. Voulez-vous que ça soit?
Il y a le juge, des psychiatres,
le juge.
Un collège.
Mais collège. C'est la problématique. On ne s'appuie pas sur un collège d'experts. Ce n'est pas au juge et ce n'est pas au policier d'être le mieux à même d'évaluer le passage à l'acte. C'est
mais
pas
pourquoi
facile.
Pourquoi vous faites de si mauvaises lois alors?
Mais pourquoi on fait des... Attendez, je
ne sais pas... parce que c'est vous qui êtes responsable de la loi.
Attendez, mais la loi, elle évolue. C'est-à-dire, entre-temps, entre 2009 et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le même état de la radicalisation. Il s'est passé le Bataclan, il s'est passé Strasbourg. Donc, moi, ce que je dis, il faut pouvoir évaluer la radicalisation de l'individu. Et c'est pour ça que les hommes de justice, les policiers, l'administration pénitentiaire doit s'entourer de psychiatres, de psychologues, de sociologues peut-être les mieux à même à évaluer le passage à l'acte.
Il y a des services remarquables dans les prisons, qui est ce qu'on appelle les SPIP, les services de probation et d'insertion, etc. Les SPIP sont des gens qui sont, je ne dis pas que ce sont de hauts experts, mais ce sont des gens qui sont... Alors, est-ce qu'ils sont formés en ce qui concerne les personnes radicalisées?
Non.
Ils sont très bien formés en ce qui concerne la déclaration de la délinquance ordinaire. Est-ce qu'il est nécessaire de les former plus? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir d'autres solutions? Est-ce qu'il est nécessaire de créer des commissions spéciales? Les commissions spéciales, j'en ai ras-le-bol. Hein, parce que les commissions spéciales, on fait toujours des commissions spéciales, ça marche mal, ça démarre mal.
Il faut des experts.
Il faut
10 ans pour mettre en place une commission spéciale.
Moi, je pense que la seule chose qu'on pourrait peut-être envisager, c'est de renforcer les pouvoirs et les compétences des services de probation et d'insertion qui sont actuellement des services dans l'administration pénitentiaire.
David Calogine.
Maître a une réflexion qui est totalement juste. On a chez nous, en nos sein, des travailleurs sociaux, les CPIP, qui ont une certaine professionnalisation. Mais on est face vraiment à un manque de moyens. Quand aujourd'hui, vous avez un travailleur
parce que
social.
Manque de moyens, parfois c'est un peu tarte à la crème. Manque de
humain.
De personnel, manque de formation.
Aujourd'hui, un CPIP, il a en moyenne, sur la région parisienne, entre 120 et 170 dossiers à gérer. C'est impossible de connaître.
Donc c'est bâclé. Mais il ne peut pas travailler correctement et approfondir son dossier.
Quand on est avocat de détenu, évidemment, on sait bien que vous savez qu'il y a toujours un moment où on pense à la sortie, etc. Les SPIP sont très importants dans les analyses qu'ils font. Le problème, c'est qu'ils traitent leurs dossiers bien, mais qu'ils ne peuvent pas tous les traiter parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et je crois que le problème du personnel de l'administration pénitentiaire, à tous les points de vue, je crois également pour les surveillants, est insuffisant. Je crois que le problème principal, à mon avis, est là.
les SPIP ne sont pas du tout adaptés à la radicalisation. C'est un phénomène. Ils ont travaillé, mais
il faut les former.
Il faut les former. Mais à l'heure actuelle, ils ne sont pas adaptés. Bah, donc vous avez, vous avez cette problème.
C'est pas vrai. Vous allez au SPIP de Fresnes, par exemple.
Ils
sont très adaptés.
Maître, vous parlez de Fresnes. Bon, ça a un peu évolué. Novembre 2017, je suis allé à Fresnes. 2000 détenus, renseignement pénitentiaire, une seule personne.
Oui.
Alors aujourd'hui, il y a une montée en charge. Il commence à avoir des recrutements, mais une seule personne, qu'est-ce qu'il faisait ?
Il y a quoi ? Il y a David Calogine. Je vous vois hocher la tête.
Ça veut dire d'annonce. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire ils sont trois, ils sont quatre aujourd'hui.
Eh bien,
c'est une personne pour 2000. Il y a pas. Voilà, le type faisait de l'administratif. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Et donc, comment vous voulez faire avec le nombre de personnes qui sont radicalisées que dans un établissement comme Fresnes ?
Eh bien, nous sommes d'accord.
C'est génial.
Mais
on va arrêter l'émission.
Que le Parlement donne des moyens supplémentaires à l'administration pénitentiaire pour réussir à régler ces problèmes.
C'est un peu l'objet de ma mission. C'est pour ça que je me suis emparé de cette mission d'information.
Et je pense qu'il faut le donner pour d'autres problèmes aussi.
Et derrière ça, on
je ne veux pas faire une revendication syndicale, mais.
On a aussi un souci de contenu, de suivi, d'évaluation de la radicalisation. De prévention de la radicalisation. Aujourd'hui, quand on voit qu'à Vendin-le-Veille, où on a des quartiers d'évaluation de la radicalisation, ils font des activités animales, de conciliation animale avec des gens qui reviennent de Syrie, pour de la déradicalisation. On est complètement hors du temps, quoi. Je veux dire, il y a des gens, on sait qu'on va pouvoir effectuer un travail sur eux.
Vous n'y croyez pas à la déradicalisation ?
On y croit, sinon on ferait pas ce métier-là. On y croit, mais je veux dire.
On va marquer une pause à la dernière partie du débat.
Mais c'est pas notre travail.
Il est
19h48.
Europe 1. Importantes ces questions qui sont posées autour de la table. Et il y a d'ailleurs des points sur lesquels on arrive même à vous mettre d'accord. C'est parfait. Nous continuons, nous avançons. Restez bien sur Europe 1. On revient dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard. Vos invités ce soir, Mathieu, Maître Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris, ancien président de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, le député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, Éric Diard, rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la radicalisation dans les services publics, et le secrétaire général adjoint de syndicat UFAP-UNSA Justice, David Calogine, surveillant à la maison d'arrêt de Saint-Pierre à La Réunion.
David Calogine, le Premier ministre Édouard Philippe, il y a quelques minutes, a parlé de quartiers parfaitement étanches pour les détenus radicalisés. Est-ce qu'il faut tous les isoler complètement ? Et à travers ça, avec peut-être une forme de principe de précaution, est-ce qu'on ne risque pas de les priver de tout simplement, et d'empêcher toute évolution ?
Écoutez, nous, à l'UFAP UNSA Justice, on a cette position, mais c'est la nôtre. Et on estime qu'il faut les isoler déjà. Du reste de la détention, parce que ça c'est chronophage et c'est on amène de la radicalisation en fait pour ceux qui ne le sont pas, et de deux on irait même jusqu'à les isoler entre eux, mais après ça reste qu'une une décision et un avis politique de l'IFAP et de sa justice.
Éric Diard.
Attendez, il faut dire la réalité. Les prisonniers radicalisés ne sont pas isolés de partout. Je vous donne un exemple. Fresnes, la configuration architecturale de Fresnes fait que simplement, vous avez à l'étage, vous avez un filet de sécurité. Et donc, ils peuvent tout à fait communiquer avec les individus détenus de droit commun. Alors, je sais que c'est un éternel problème. Vous les mettez ensemble, vous faites des fauves. Vous les mettez avec des détenus de droit commun, il y a un risque de prosélytisme, excusez-moi l'expression maître, de contamination. Mais à un moment, il faut quand même réfléchir. La déradicalisation, c'est pas une opération chirurgicale, mais ça consiste, et ça existe, ça commence à se mettre en place, à ce que ces personnes, c'est comme un désendoctrinement au niveau sectaire, ça met du temps, et il faut, il y a des imams qui leur montrent que l'islam n'est pas l'islam qui croit, alors ça met du temps, mais à un moment ces personnes vont sortir, il va falloir préparer la sortie de ces personnes, il y en a certains qui vont sortir, donc il y a un travail à faire, mais moi je dis qu'il faut arrêter l'angélisme. Quand je vois les décisions du Premier ministre, ça veut dire qu'on s'est manqué.
On attend des précisions évidemment aussi, parce que ce sont des annonces un peu vagues, mais David Calogine,
je voulais juste réagir sur le culte de l'aumônerie musulmane. C'est un fait que malgré qu'ils aient été dotés de moyens supplémentaires il y a une dizaine d'années, ces imams sont en nombre totalement insuffisant.
C'est effrayant.
Et ce qui se passe, c'est qu'on a des imams autoproclamés qui véhiculent des paroles qui ne
correspondent
pas. Ces quartiers étanches
Attendez, il y a beaucoup d'imams qui sont remarquables.
Oui, mais non, imams, je ne reviens pas
sur... imams de prison, les imams de
prison. Je crois que David Calogine faisait référence plus à des détenus qui sont des imams autoproclamés.
Alors ça, bien entendu, il faut se méfier de ça. Alors justement, il y a tout un travail à faire sur ce point, sur lequel je ne reviendrai pas. Sur le problème de l'isolement ou du mélange, ça fait 4 ans qu'on parle de ça, et sur lequel j'ai réfléchi avec des gens, des hommes politiques, de droite, de gauche. Ça change sans arrêt. Il n'y a pas de position de droite, il n'y a pas de position de gauche. Il y a une incertitude sur la nécessité soit de les regrouper, soit de les disperser. Alors, il y a ça. Alors, là, évidemment, vous allez voir les auditeurs, il y en a tout un tas qui sont... Ça y est, ils ont pris leur choix, ils ont dit non, ce qu'il faut, c'est les disperser, etc. Je pense que c'est un sujet très difficile, qui doit être étudié avec soin, et qui doit être étudié dans le sens, évidemment, du respect des principes fondamentaux de nos droits.
Éric Diard.
Cette décision est difficile, mais c'est une politique générale. C'est-à-dire, moi j'avais dit à Mme Belloubet, cette décision ne devait pas relever du directeur d'établissement. Il y a quelque temps, la décision relevait du directeur d'établissement. Ça veut dire qu'à Fresnes, on les regroupait, au Beaumont par exemple, on les isolait. Donc c'est une politique générale qui doit être faite, mais je pense qu'il faut... Moi, je pense qu'on ne peut pas les mettre au contact des détenus de droit commun, mais après, il faut envisager, tôt ou tard, un retour, puisque ces personnes sont censées, tôt ou tard, être libérées. Il faut une réhabilitation.
C'est ça le problème. C'est que si vous les isolez... Alors, bon, je ne veux pas discuter. Hein. Je dis, j'ai entendu tout. Moi, je dirais que moi-même, j'ai changé de position sur ce sujet. Bon, je ne suis pas sûr de mieux. Mais ce qui est certain, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'ils vont sortir. Notre problème... c'est que la prison, y compris pour les gens qui ont commis ces actes, y compris son rôle de préparation à la réinsertion, il reste, il est fondamental, il est maintenant au cœur de notre système de droit. Et donc il faut réfléchir à ça. C'est une raison pour laquelle il n'y a pas, là aussi, on a besoin de moyens supplémentaires. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'effectivement, ces gens-là ne récidivent pas. C'est ça qui est important. Donc il faut que la prison ait un rôle, qui soit un rôle de préparation à la réinsertion. Et c'est possible. Mais c'est très difficile et il faut y réfléchir et il faut du personnel et il faut du monde pour faire cela. Vous ne ferez pas cela avec malheureusement un surveillant qui peut faire quelque chose, qui peut réussir à dire quelques mots. Vous savez que c'est très important. J'ai toujours considéré que les surveillants avaient en prison un rôle essentiel puisque c'était eux qui disaient quelques mots aux prisonniers, qui parlaient quelquefois.
Bon. David Calogine,
c'est très important. Mais ce n'est pas suffisant. Il est évident qu'il faut des éducateurs spécialisés, qu'il faut décupler cela, il faut y réfléchir.
Des moyens, donc.
Il est plus important de réfléchir à cela qu'à tout le reste. Alors, bien entendu, la sécurité, tout le monde est d'accord. Il faut la sécurité.
Il nous reste une minute seulement. David Calogine, est-ce que... On parle beaucoup en ce moment aussi des retours de Syrie. Combien, on ne sait pas. Qui exactement, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une crainte chez les surveillants pénitentiaires, particulièrement sur ce dossier-là?
Quand on voit comment sont gérés ceux qu'on a actuellement au sein de nos détentions, on ne peut qu'être inquiet. Parce que là, on parle de détenus qui sont allés faire le djihad en Syrie ou ailleurs, qui sont des gens qui ont été habitués et entraînés à des gestes de combat, de défense, de...
Certains, pas tous, évidemment.
Mais bien sûr, mais quand même, après c'est une image qu'on se donne, quoi. Mais ça, effectivement, il y a une grosse crainte.
Une aura aussi.
Une aura envers les autres détenus.
Mais ceux-là seront isolés.
C'est un vrai problème qui nécessiterait largement tout un
débat.
Une
émission en soi.
La seule chose que je veux dire, c'est que moi, je me bats actuellement, je suis exigeant sur le problème du retour des enfants. Vous avez actuellement 100 000 enfants de moins de 6 ans. Il y en a 29, pas des Français d'ailleurs, il y a 5 000 de Français, mais il y a 29 enfants qui sont morts dans la CA et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ont dit qu'ils étaient morts de dénutrition, de froid, de misère. Et il y a là une centaine d'enfants français. Je demande qu'on ne discute pas, les enfants de 6 ans ne sont pas des bombes à retardement, comme le disent certains.
Peut-être même des victimes.
On est quand même sur une affaire, qu'on est sur Sarthe, shérif chez 4, sur des personnes radicalisées qui sont... considérés comme des détenus de droit commun. Quand on les identifie comme radicalisés, on peut les isoler. Mais le problématique, je rappelle que dans nos prisons françaises, il y a 1000 détenus de droit commun qui se sont radicalisés. Ils ne se sont pas radicalisés par la magie du Saint-Esprit, ils se sont radicalisés dans les prisons.
Merci beaucoup. Merci à vous trois. Désolé, on est au bout et sur la fin de cette émission, on a soulevé des questions qui mériteraient en elles-mêmes d'ailleurs des débats en soi. Maître Henri Leclerc, avocat, ancien président de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, merci d'être venu débattre avec nous. nous Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône et rapporteur de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la radicalisation dans les services publics, et David Calogine, secrétaire général adjoint du syndicat UFAP UNSA Justice, surveillant à la maison d'arrêt de Saint-Pierre à La Réunion. Merci beaucoup, merci à vous trois d'être venus échanger sur ce débat si compliqué.